Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de naturopathie humaniste qui a été fondé par Odile Chabriac qui est praticienne depuis plus de 20 ans. Et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe? Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www.inh.life. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Aujourd'hui, je reçois 2 femmes pour nous parler de la méthode Bisou, la méthode super facile pour consommer durable et minimaliste au quotidien. Vous allez apprendre à mieux acheter et la bonne nouvelle, c'est que bien consommer rend heureux. Ma première invitée est assistante sociale. Elle est au cœur de la consommation des ménages et de ses effets sur leur épanouissement. La deuxième est psychologue et s'intéresse au processus qui nous pousse à consommer. Nos 2 militantes écolo abordent avec humour un pan de notre vie qu'on n'a pas l'habitude de lier au bonheur. Les 2 complices signent un livre « L'abus de consommation responsable rend heureux ». Dans Métamorphose, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Dubois et Herveline Giraudot. Bonjour et bienvenue à toutes les 2.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, reprendre le contrôle de sa consommation, c'est simple comme un bisou. C'est votre méthode bisou. Bisou pour besoin, immédiateté, semblable, origine, utile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient ?
Marie ? Alors, la méthode bisou, elle est née dans notre premier livre « J'arrête de surconsommer », où en fait, dans la première grande partie, on avait répertorié différents types de surconsommateurs et il nous manquait un chapitre, le dernier chapitre de cette première partie. Et on cherchait quelque chose qui nous permettrait de lier tout ça, une méthode qui pourrait être utile pour tous ces différents profils de surconsommateurs. Et la méthode bisou est apparue en fait un après-midi pluvieux comme une fulgurance. Herveline était dans sa grande période avec les acronymes. Je me suis dit, on va trouver un acronyme. Et c'est voilà.
Bisou est arrivé.
Une inspiration subite.
Alors justement, Herveline, vous dites aussi qu'en rapport avec le bisou, vous n'allez pas révéler le secret ultime de l'appel.
Oui.
Alors vous militez pour une écologie joyeuse et décomplexée. C'est quand même ça qui vous caractérise.
Oui, tout à fait. Vraiment, là, on pense que de toute façon, on s'en sortira pas si on déprime, de toute façon. Donc, autant le faire dans la joie et la bonne humeur. Ça n'empêche pas de faire tout ce qu'il faut. Et en plus, en étant plus heureux, moi, je pense qu'on avance plus vite et plus sereinement et on fait les choses de manière plus constructive.
On reviendra tout à l'heure aussi sur l'éco-anxiété. Comment nos besoins sont-ils exploités aujourd'hui par le marketing et quelques exemples peut-être qui jouent sur nos peurs?
Alors, le marketing, en fait, il focalise, il met un gros projecteur sur nos défauts et nos manques. C'est un peu le principe. Il nous dit finalement qu'est-ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et il nous propose une solution pour remédier à ça. Sauf qu'en réalité, il propose une solution qui est un pansement, Et parce qu'il faut, le but c'est qu'on dépende du marketing. Il faut qu'on rachète, qu'on rachète, qu'on rachète. Donc la solution, elle ne sera jamais pérenne parce que finalement, les solutions à nos besoins, elles sont intérieures la plupart du temps. Et le marketing, lui, propose des solutions avec des objets de consommation. Donc voilà, donc c'est le gros principe du marketing aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, ce qu'on propose dans la méthode Bisou, finalement, c'est de faire le chemin inverse et de se dire, ces besoins, c'est pas le besoin, en fait, qui est le problème. On a tous des besoins et n'importe quel besoin est important. Mm-hmm. Même les besoins qu'on peut qualifier de futiles, finalement. Sauf que c'est la manière d'y répondre, en fait. Et nous, on propose de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de se dire que, à chaque fois que la solution peut être à l'intérieur de nous, comment la trouver, finalement?
Oui, il y a en fait très peu aujourd'hui d'ouvrages ou de pensées qui lient véritablement nos besoins intérieurs et l'écologie et notre consommation. On est encore très dans l'injonction de arrêter de consommer, mais sans aller en amont du pourquoi.
Ouais, et du coup, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, ça fait l'effet régime, quoi. Enfin, l'effet yo-yo. C'est-à-dire que les gens, effectivement, ils voient le problème, ils essayent de trouver des solutions, ils regardent les petits pas, les petits gestes, ils essayent de faire, ça les obnubile. Et du coup, à un moment, il y a un gros craquage parce que finalement, la vie, si on passe sa vie à se dire « je ne fais pas assez bien, je ne suis pas assez bien, je ne vais pas assez loin », on peut pas avancer comme ça sans bonheur.
C'est culpabilisant.
Oui, c'est qu'on s'auto... Mais alors, nous, on a pris le parti de culpabiliser personne, mais en fait, la pire personne qui se culpabilise, c'est soi-même. Donc voilà, donc on essaye de sortir, nous, de cette spirale-là et de couper l'effet yo-yo en, finalement, proposant des solutions en amont, avant que le besoin irrépressible, que l'envie irrépressible d'acheter ne se pointe, quoi, finalement.
Et ça, c'est lié à notre rapport au temps et à l'immédiateté. Marie ?
Oui, on fait le parallèle entre le jeu du marketing qui est de nous faire acheter le plus vite possible. Les promotions sont toujours jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, dans un temps très limité. Voilà, le but des magasins est de nous faire acheter toujours le plus vite possible. Et nous, on met ça en perspective dans notre livre avec tout le reste, en fait. C'est-à-dire que toute notre vie est gérée par l'immédiateté. On est pressé comme des citrons, que ce soit dans le milieu du travail. On fait plein d'activités bénévoles, culturelles, sportives. On est tout le temps en train de courir, en fait. Du coup, ça nous paraît tout à fait normal, cette urgence, cette sensation d'urgence. Et en fait, on n'y prête plus attention quand ça vient du marketing.
Sauf que dans l'urgence, dans l'immédiateté, ça nous empêche de penser.
Voilà.
Et de construire un raisonnement, en fait.
Oui, c'est ça. Alors, nos achats répondent souvent à une logique psycho-affective, de dépenses plutôt qu'à nos vraies valeurs. Et ce décalage, vous le dites dans votre livre, crée un mal-être. Alors que vous dites, en réalignant nos caddies à nos idéaux, on gagne en authenticité et en paix intérieure, c'est ça ?
Oui, complètement. Et on gagne en confiance en nous, on gagne en fierté et on gagne en esprit critique. On apprend qu'on est capable, en fait, de prendre nos propres décisions. On gagne en pouvoir, en fait, quelque part. On retrouve notre pouvoir. On se rend compte dans les expériences qu'on a des personnes qui nous suivent depuis longtemps que le pouvoir a été repris par la consommation, c'est-à-dire je choisis à qui je donne mon argent. Je projette, en fait, ma vision du monde avec mon porte-monnaie. Et ça nous apprend à faire nos propres choix, à décrypter, à être critique par rapport à tout ce qu'on reçoit, voilà, à ne plus recevoir tout la gueule ouverte, j'ai envie de dire, des médias, des infos, etc. Ça nous apprend à nous décaler et en fait, ça nous apporte énormément de bonheur et d'estime de nous.
Oui, quand tu dis la gueule ouverte, c'est vraiment cette image qui m'est venue on est comme un espèce de déversoir à tout ce qui est junk quelque part, enfin voilà.
Oui. Même les informations, enfin voilà les réseaux sociaux, les informations, on ingurgite une quantité mais pharaonique de d'informations, de données, d'injonctions, d'anxiété, c'est ça.
En fait, on n'est pas capable de digérer tout ça.
Ça fait beaucoup pour un même cerveau, hein. Ça fait beaucoup pour un même cerveau. Et c'est vrai que nous, notre credo, un petit peu avec Marie, c'est l'esprit critique. Vraiment, tu l'as dit, c'est vraiment de laisser les gens développer leur esprit critique. Alors finalement, c'est vrai que du coup, les petits pas, les petits gestes, etc., dans ce livre-là, on n'en donne pas tant que ça.
Oui.
Parce que notre but, c'est plutôt que les gens trouvent leur solution. C'est plutôt de les mener vers le chemin où ils trouveront leur propre solution, parce que leur solution, leur vérité n'est pas celle du voisin et encore moins la nôtre.
Mmh.
Et ça, il faut vraiment accepter qu'il n'y a pas une pensée unique. C'est vraiment, notre but, c'est l'anti-pensée unique, en fait. Y compris dans l'écologie, je veux dire, dans l'écologie comme partout, la pensée unique tue le raisonnement.
Bien sûr. Je vais parler d'un autre livre qui est celui de Sébastien Boller sur le bug humain. En fait, il parle de notre cerveau en fait qui bug justement au niveau de la consommation et que quelque part il y a quelque chose de presque de physiologique en fait dans cette frénésie quelque part qui est liée aussi à nos modes de survie. Alors comment est-ce qu'on peut aller contre ça quelque part ou accompagner la prise de conscience?
Bah, moi, je dirais que vraiment, il y a un moment où il faut se poser. Il faut vraiment se poser, quoi.
Oui.
Se poser et dire stop. Enfin, c'est un peu, je dirais pas sortir de son propre corps, sortir de son propre esprit. Enfin, mais regarder un petit peu, avoir un regard extérieur sur la manière dont on fonctionne, la manière dont on se sent obligé de fonctionner comme ça. Parce que c'est ça, les gens, et nous-mêmes avant, on pensait qu'on était obligés de fonctionner comme ça, selon toutes ces normes sociales, l'image qu'on renvoie, l'image que la société veut avoir de nous, qu'est-ce que c'est qu'un bon parent, qu'est-ce que c'est qu'une bonne épouse, oui. J'allais dire. Enfin voilà, il y a toutes ces images-là, et du coup, ça nous amène à faire tout un tas de gestes, d'actions, de pensées, qui nous bouffent complètement notre temps, notre quotidien, notre argent, notre bonheur, notre esprit critique, notre liberté. Et je crois qu'à un moment, il faut se poser et se dire pour chaque truc, pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas ?
Et toujours pareil, comment assouvir ce besoin parce que enfin on parlait de besoins vraiment primaires primitifs,
oui.
Comme le besoin d'être en groupe, quoi, d'être reconnu, d'être enfin de quelqu'un qui est un paria, enfin c'est pas possible, quoi. Donc on a besoin d'être en groupe, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'affection, etc. Et c'est plus reconnaître nos besoins, ok, ils sont là. On va pas. Le but c'est pas de gommer les besoins. Le but c'est de savoir les voir déjà, les repérer et pouvoir les accueillir et les assouvir d'une autre façon que par un acte d'achat, tout simplement.
C'est ça. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que ce petit organe qu'on a dans le cerveau, en fait, qui nous pousse, en fait, à obtenir la récompense, qu'en fait, nous sommes presque programmés pour recevoir cette récompense. Mm-hmm. Et je le cite, et j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus, il dit « L'homme s'est bien imposé comme le mammifère dominant de la planète et réclame toujours plus de récompense pour son action. Tel un drogué, il ne peut se discipliner sa tendance à l'excès. À aucun moment, il ne cherche à se limiter. Hier, notre cerveau était notre allié pour la survie. Il nous a fait triompher d'une forme d'asservissement de la nature. Aujourd'hui, il est en passe de devenir notre pire ennemi.
Mmh.
Alors, c'est quand même.
C'est quelque chose. Enfin, moi, ça me parle.
Oui.
Ça me parle. Ça me fait penser, par exemple, aux réseaux sociaux avec cette petite dopamine là,
les
jeux vidéo, les notifications, les trucs. C'est toujours la reconnaissance. C'est toujours assouvir le plaisir immédiat. Je pense que. Ça peut se déconstruire, en fait.
Et puis, surtout, le plaisir est addictif, certes, mais il existe d'autres formes de plaisir. Je veux dire, la démarche qu'on fait, elle procure du plaisir. Et c'est aussi de la dopamine. Et c'est aussi une énorme récompense, en fait. C'est juste pas le même type de plaisir.
C'est mettre le curseur ailleurs.
C'est changer le boîtier, en fait. C'est le curseur, il est toujours sur le plaisir. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je suis toujours dans la recherche du plaisir. Après, c'est plus les mêmes. Voilà.
Le titre de votre livre, L'abus de consommation responsable rend heureux, est un peu en forme de provocation. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous cherchiez à travers ce titre ?
Bon, je pense que ce titre, déjà, il est un petit peu à notre image. Hein. C'est un livre où on parle beaucoup de nous, où on a beaucoup d'autodérision, où on raconte un peu...
C'est très cash, décomplexé.
Voilà, décomplexé, voilà, il y a beaucoup d'humour. Et je pense que... Bon, c'était un clin d'œil, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'était un petit clin d'œil humoristique.
Mm.
Ouais, voilà. C'était surtout le clin d'œil humoristique. C'est vrai qu'après, on a eu des remarques depuis la sortie du livre concernant ce titre. L'abus, aucun abus. Enfin voilà, aucun abus n'est bon. Consommation est responsable. Est-ce que ça va être un livre qui va faire l'éloge du développement durable, justement,
la
croissance verte ou quelque chose. Alors que c'est absolument complètement l'inverse. Mais alors ça, c'est très nous. C'est vraiment très nous. C'est-à-dire qu'on a tellement trouvé ça drôle que on n'a pas anticipé. Donc voilà.
Et alors, comment lutter contre l'éco-anxiété ? On en parlait tout à l'heure. Et être ni dans le déni, ni dans la psychose, c'est pas facile parce qu'on passe plus ou moins par cette étape.
Oui, on passe. Il y a beaucoup de personnes qui passent par cette étape.
Vous êtes passée par là vous-même ?
Alors, Herveline, oui, moi, non. Donc, je te.
Moi, je suis passée par l'éco-anxiété en 2012. J'ai eu un énorme pic d'éco-anxiété. Et là, je peux dire, de temps en temps, je te le dis, hein, de temps
ça
en
revient.
Temps, ça revient, ça revient. Enfin, voilà, de temps en temps, j'ai un petit peu de mal avec ça. Après, la solution que j'ai trouvée, c'est d'être dans l'action, parce que finalement, militer, c'est un petit peu être dans l'action. Ça a été aussi de me couper. Des informations et de sélectionner mes réseaux sociaux en fonction. Je ne veux pas être submergée en fait par l'angoisse. Moi, je sais très bien ce qui arrive, les incendies en Australie. Enfin, voilà, je sais très bien ce qui arrive. Je suis pas. Il suffit de 3 petits mots pour savoir ce qui se passe, oui. Mais j'ai pas besoin d'en lire des tonnes et des tonnes.
Et de voir toutes ces images, etc.
Et de me complaire là-dedans parce que je sais que moi, je suis absorbée là comme un trou noir par cette angoisse-là. Je me dis oulala, dans quel monde j'ai jeté mes enfants, parce que moi, c'est surtout comme ça que ça se traduit. C'est mes enfants, je me dis, je culpabilise énormément, en fait. Enfin, voilà.
Ils ont quel âge aujourd'hui ?
Ils ont 8 et 10 ans. Ils ont 8 et 10 ans et je ne sais pas comment les armer pour le futur qui les attend. Donc voilà, là, on retombe typiquement. Et du coup, moi, j'essaye de me dégager de cette pensée-là parce que de toute façon, je n'y peux rien. Moi, je me dis, sur ce sur quoi je n'ai pas la main, je l'efface de ma charge mentale.
Moi, c'est en fait, j'ai jamais été sujette à l'éco-anxiété, exactement pour la conclusion d'Herveline, en fait.
Oui.
Je dis pas que je trouve pas ça déprimant et très triste et que des fois je suis en colère contre l'inaction des grosses entreprises du gouvernement.
Oui, puis ton action montre l'inverse, effectivement.
Voilà, je milite et tout ça, mais pour autant. Je sombre pas dans l'éco-anxiété parce que je me dis il y a une forme d'humilité qui me dit aussi mais je ne peux pas à moi toute seule changer le monde, donc à un moment ce sur quoi tu n'as pas la main, ben s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème, en fait. Je peux pas faire plus que ce que je fais déjà, donc tout le reste c'est de la, j'allais dire c'est de la masturbation mentale, mais non c'est de la flagellation mentale, en fait. Et donc voilà.
Et pourtant, l'exemple récent de Greta Thunberg nous montre qu'une personne peut faire la différence et que son éco-anxiété, en fait, l'a emmenée. Alors, aussi pour des raisons, elle est autiste, donc on sait qu'elle, dans son syndrome, elle avait des symptômes d'éco-anxiété particulièrement développés. Mais au-delà de ça, son éco-anxiété l'a vraiment menée dans une action où, effectivement...
Moi, je pense que l'éco-anxiété, c'est plutôt le signe qu'on va bien, quelque part. Enfin, on est dans une société qui est quand même malade. Les personnes qui sont éco-anxieuses sont les personnes les plus éveillées sur le sujet. Enfin, heureusement qu'il y a des éco-anxieux. C'est eux qui ont compris ce qui se passait. Donc, effectivement, si l'éco-anxiété est transformée en action, c'est bien. Si l'éco-anxiété mène à la dépression profonde, parce que moi je vois ça des fois dans des groupes de collapsologie, un bon activiste et un bon écolo n'est pas un activiste mort non plus, hein.
Oui.
Il faut prendre soin de nous pour pouvoir ensuite prendre soin du reste.
Bah, oui. En même temps, ça fait partie d'un processus. Hein. T'as un processus, t'as une dépression, t'as une remontée. Enfin, tout ça, c'est assez bien expliqué dans divers ouvrages. Je pense qu'il y a des réactions comme ça, normales. Face à la problématique du monde d'aujourd'hui, alors que nous, on est nés encore dans une époque où on nous disait que les écolos c'était un peu désallumé et que tout allait très bien. On nous a dit, c'était plutôt un symptôme. L'éco-anxiété à l'époque était traitée un peu comme une maladie mentale, mais presque, quoi. Alors que là, non, on est dedans Et il faut, effectivement, mais par contre, il faut réussir à transformer ça en action, en fait, en pouvoir. Comme l'a fait Greta. Hein.
Comme l'a fait Greta. Alors justement, à propos d'action, est-ce que nos actes, finalement, ont-ils un impact réel au quotidien ? Cyril Dion, je l'entendais dans une émission il n'y a pas très longtemps, il parle du côté important des éco-gestes, mais parfois un peu anecdotique en comparaison avec les enjeux, avec certains enjeux au niveau industriel, les plus gros polluants de la planète, les riches, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Que faire de vraiment utile ?
Moi, je pense que Marie. Les petits gestes, il ne faut pas les
reléguer.
Ouais. Je pense que la majorité des gens entrent dans la démarche par les petits gestes. Nous, on l'a vraiment vu avec notre groupe gestion budgétaire entrée des minimalismes, où les gens viennent pour trouver des astuces, faire des économies, et puis des astuces, je ne sais pas, de ménage naturel, etc. Et ensuite, il y a une vraie remise en question qui arrive. Et je pense que, voilà, on ne peut pas renier les petits gestes. Pour ça, c'est la porte d'entrée. Et après, ça me fait penser, par exemple, au deuxième ouvrage de la famille Zéro Déchet. Ils ont fait un premier sur tout le zéro déchet dans la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain, etc. Dans le deuxième, ils vont plus loin. Ils se questionnent sur leur travail, sur notre emploi, notre travail, notre rapport au travail, sur les transports, sur l'habitation, sur là où on place notre argent. En fait, on n'a jamais fini. Hein. On peut toujours aller... On peut toujours aller loin, donc après ça c'est pour la démarche individuelle, et puis après il y a toujours aussi les démarches collectives, les associations, les actions.
Et puis finalement, les industriels et les politiques, qu'est-ce qu'il faut en attendre ?
Bah, oui.
Sincèrement, rien. Si, enfin, quand on voit ce qui se passe en Australie et les propos du Premier ministre, enfin, je veux dire, voilà, on en est là. Voilà, on a choisi nos dirigeants, hein, on a choisi notre économie, on a choisi le monde dans lequel on vit, mais maintenant on est des millions. Voilà.
Et puis soit on s'assoit par terre et on pleure. Ou soit, bah, on essaye de bouger les choses à un niveau individuel. C'est mieux que rien. Enfin, c'est mieux
mais,
que rien.
Mais se reposer sur les politiques et la bonne volonté des industriels, enfin, je vois pas en quoi ça peut être plus, en quoi ça peut avoir plus d'effet que les éco-gestes, étant donné que ça n'arrivera pas.
En fait, il disait pas que c'était inutile, hein. Mais il disait que c'est si on veut vraiment maintenant avoir un impact fort et que ça s'accélère quand même de manière assez dramatique. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là.
Tout à fait. Ouais. Mais après, il faut vraiment... Moi, je pense aussi qu'il faut différents types de militantisme qui se complètent. C'est-à-dire que nous, on est plus sur le militantisme. On va essayer d'entraîner les gens qui sont loin, les gens qui ont un quotidien difficile et l'écologie, c'est un peu le cadet de leurs soucis et on les comprend. Voilà. Et puis, il va y avoir des gens, Cyril Dion, par exemple, qui va être plus fédérateur à un autre niveau, un niveau un peu plus élevé... Voilà, de la sphère politique, etc., etc. Il faut de tout, parce qu'on a besoin de toutes les forces et de toutes les zones de génie, finalement. Parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes zones de génie, chacun. Ouais. Et il faut que tout le monde aille, finalement, dans le même sens.
Comment allier consommation, plaisir, bien-être, organisation et fluidité ? C'est pas toujours évident dans le quotidien.
Alors déjà, rien que la question, elle est angoissante. Pardon.
Pourquoi tu dis ça, par exemple ?
Parce que quand j'entends cette question, ça me fait, dans ma tête, ça s'allume le warning. Comment être une femme parfaite aujourd'hui ?
Genre... Non, mais c'est ce que vous proposez quand même dans votre guide. C'est-à-dire que justement, vous proposez une forme de décroissance, n'ayons pas peur des mots, en consommant mieux, en choisissant ses objets et qui se fait dans la fluidité. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est décomplexé, on se flagelle pas, on s'auto-flagelle pas. En même temps, vous êtes maman. Donc, dans la vie du quotidien, vous avez des repas à préparer, vous n'êtes pas seule, isolée. Donc, il faut concilier tout ça. Donc, j'ai beau dire, la mère parfaite est une connasse, je suis d'accord. On est bien d'accord avec ça, mais en même temps, c'est
non,
souvent
mais réellement,
ça qui pointe.
La mère parfaite est une connasse.
Ouais, c'est
non,
ça.
Mais vraiment, c'est le secret. Hein.
Mais elle n'existe pas, de toute façon.
Non.
Personne n'est une mère
non,
parfaite.
Il faut commencer,
dans nos têtes.
Il faut commencer par un petit truc. Enfin, voilà, c'est tout. On n'a pas de recette miracle. À chaque fois qu'on nous demande par quoi commencer, on répond parce que tu veux, parce qu'il te fait plaisir. Si t'aimes bien cuisiner, si t'aimes bien tester des nouvelles recettes, vas-y. Si t'aimes bien les cosmétiques, change tes cosmétiques ou fabrique-les. Et voilà, c'est pour que ce soit fluide, il faut que ça se fasse petit à petit en suivant son plaisir.
Mais par exemple, vous, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça a changé dans vos témoignages ? Ça peut être intéressant.
Eh ben, déjà, moi, je me suis lâchée la grappe. Déjà, je me suis auto-lâchée la grappe avec toutes les trucs angoissants de voilà, de être maman, être, enfin avoir un salaire, enfin gagner sa vie, etc., etc. Ben si c'est pas parfait chez moi, si le ménage est pas parfait chez moi, c'est pas grave. Si mes enfants ont décidé qu'ils voulaient s'habiller un peu n'importe comment un jour, c'est pas grave. Si on mange des pâtes aux gruyères, c'est pas grave. Même deux jours de suite, c'est encore moins grave. Enfin voilà, je me suis lâchée la grappe. Ça vraiment. Et j'ai simplifié énormément mon quotidien. Alors déjà, bon, moi j'ai sacrément désencombré. Voilà. Et le ménage est plus simple. Enfin voilà, j'ai trouvé aussi un certain bonheur comme ça à me délester de plein d'objets qui étaient en trop et qui m'envahissaient et qui font que ma maison est plus vide et... Enfin, elle est pas vide, hein. Je m'entends.
Mais elle est plus vide, te dis.
Elle est plus vide, oui, voilà. mais du coup, voilà, j'ai plus d'espace aussi pour penser, pour ne rien faire, s'autoriser à ne rien faire et s'autoriser à s'ennuyer et autoriser ses enfants à s'ennuyer et leur apprendre à s'ennuyer, et pas vouloir qu'ils fassent absolument une activité physique, une activité culturelle, une activité, enfin, la musique, etc., etc. S'ils veulent, oui. Sinon, c'est pas grave, honnêtement. Enfin, voilà, faut se lâcher la grappe, je trouve.
Oui, c'est, je crois que c'est ça le secret, hein. C'est vraiment arrêter avec cette culpabilité. Hein.
Ouais, alors il y a plein de gens qui se lâchent la grappe, ils se lâchent tellement la grappe qu'ils font rien pour l'environnement, ils font zéro éco-geste. Donc là, on parle aussi, si on veut s'adresser à des gens qui ont besoin de se mettre un peu en chemin, il faut à un moment donné se mettre un tout petit coup de pied aux fesses et il faut à la fois se lâcher la grappe sur des exigences de la mère parfaite et en même temps, il faut quand même se mettre en chemin. Si on veut,
c'est une curiosité en fait à avoir, que les gens commencent par ce qui leur fait plaisir. Moi par exemple, j'ai beaucoup commencé par les cosmétiques parce que j'aimais bien. Donc voilà, j'ai fait mes petites tambouilles et tout ça. Enfin, on peut commencer tranquillement par ce qui nous fait plaisir. On peut se donner des objectifs si notre personnalité, c'est d'aimer les objectifs ou les challenges. On y va tranquille. Mais la plupart des gens, maintenant, ils ont cette envie, ils ont cette curiosité. Donc, il faut tout simplement la suivre.
Oui, en fait, je pensais à se lâcher la grappe dans le sens où beaucoup de gens pensent que ça va prendre du temps. Prendre du temps de faire plus soi-même, prendre du temps d'aller rechercher les recettes, les tester, en trouver une qui fonctionne, le faire soi-même, hop, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps d'aller chercher les légumes, etc., etc. Et donc, quand je dis se lâcher la grappe, c'est aussi toiletter un peu le quotidien de tout ce qu'on s'impose. Et on arrive avec un comment dire, du rien. Et là, on se dit, oui, j'ai le temps.
Comme
j'ai la curiosité.
Comme on dit dans le livre, hein, y a tellement de choses chronophages qu'on peut virer de notre quotidien. Moi, la dernière fois, oui, j'étais dans une conférence, je ne m'en remets pas. Un jeune homme qui me dit, ma copine et moi, on rentre tard du travail, on n'a pas le temps de se faire à manger, alors on achète des plats préparés. Mais je me suis dit, mais à quel moment on a pu le temps de passer un quart d'heure à se préparer un repas.
Ah ben ils se sont lâchés la grappe.
À
ils se disent on va
légumes.
Pas se faire
non.
chier.
C'est pas ça. Moi je crois pas vraiment. Hein, au contraire même. Ouais. Je pense qu'ils sont au contraire trop pressurisés dans leur quotidien. Ils sont comme un hamster dans une roue ils sont tellement fatigués de leur journée de travail qu'ils rentrent. Ils ont qu'une envie, c'est de se jeter sur le canapé et sur Netflix et d'attraper voilà. Mais à un moment, on n'a pas de solution miracle. Moi, je ne peux pas leur rajouter une demi-heure de plus dans leur journée. Je ne peux pas faire ça. C'est à eux de voir. Il y a plein de... On disait dans le livre aussi des activités qu'on fait qui ne nous ressourcent pas. Tout ce scroll infini sur les réseaux sociaux ou regarder les infos pendant des heures ou les séries, etc., ça ne nous ressource pas.
Oui, et puis c'est ça, c'est le ressourcement. En fait, les gens qui rentrent tard du boulot et qui se s'ouvrent un plat préparé parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est vraiment symptomatique. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Des gens qui sont complètement sous pression et qui n'arrivent pas à remplir, moi je dis ça à mes enfants, à remplir leur tasse. Enfin voilà, l'image est là, quoi, à remplir leur tasse. Et je pense que moi actuellement je suis maman solo, donc je cumule mon job à temps plein et mes enfants et voilà et tout ça, et on arrive quand même, alors je dis pas que le quotidien est simple tout le temps, mais je ne ressens plus au quotidien cette pression au point d'avoir l'instinct d'aller acheter du tout fait. Mais beaucoup plus qu'à certaines époques de ma vie où j'avais le soutien de mon mari, où on était quatre, etc. Je veux dire, on a pris, d'ailleurs mon ex-mari aussi, hein, il l'a pris aussi de son côté, on a pris chacun des chemins qui font que on est moins sous pression, justement. Oui. Et c'est ça. Moi, je trouve que ça passe par se lâcher la grappe, effectivement, au niveau de la pression sociale. C'est ça dont on parle finalement.
Oui, oui. Vous parlez aussi justement, vous parliez des relations et vous étendez aussi ce superflu à la vie affective, aux relations, ce que vous appelez le fuck yes dans votre livre.
Tout à fait. Toi, le fuck yes, c'est moi, ouais. Bah oui, moi je trouve qu'effectivement, après c'est une question vraiment personnelle, mais moi j'ai l'impression que dans la vie comme dans tout, il faut être enthousiaste pour les choses. On les fait tellement mieux quand on est enthousiaste. Et dans les relations personnelles, c'est pareil. Je pense que c'est dommage de s'encombrer avec des relations qui nous font du mal, où on se sent pas bien, où on se sent sous pression, justement, parce qu'il y a beaucoup de relations sociales qui nous mettent sous pression. Et du coup, le fuck yes, c'est une bonne boussole, en fait. Pour jeter toutes les relations sociales qui ne nous vont pas, parce que ce n'est pas forcément possible, mais pour développer les relations qui nous ressourcent. Mmh. Parce que ça, on le perd de vue assez rapidement, en fait. Quand on est pris dans l'immédiateté, justement, etc. On perd de vue tout ça. Et là, vraiment, le fuck yes, ça dit, cette personne-là, je la veux avec moi, parce que vraiment...
Je te prends dans mon équipe.
Tu es dans ma team. Parce que, voilà... Dirait. Tu me remplis ma tasse comme personne.
C'est beau.
Donc voilà. Non, c'est vraiment et c'est extrêmement précieux d'avoir plusieurs personnes ressources comme ça dans son environnement. Et dans les relations amoureuses, c'est un peu pareil. C'est ce que je disais dans le livre, quoi. Mm. Finalement, il faut pas se contenter de s'entourer de relations moyennes, ou, comment dire, tièdes. Mm. Je trouve que c'est bien de se dire chaque jour, yes, je veux plus. Voilà.
Alors dans le bisou, il y a ce haut de origine aussi, et vous avez tout un chapitre sur la traçabilité, l'origine des produits. Ça, c'est très important. Et justement, dans l'idée de se lâcher la grappe, est-ce que ça prend du temps de connaître l'origine, de comprendre? Moi, je prends souvent l'exemple du faux petit producteur local. On aime bien acheter ces bonnes petites pommes de terre, et en fait, on s'aperçoit que c'est bourré de pesticides, et que finalement, ce qu'on croit être du bon petit local, vu de la ville, on se dit tiens, on est à la campagne, ça doit être tout bon. Ça l'est pas forcément. C'est compliqué en fait de savoir véritablement d'où ça vient.
Oui, oui, oui. C'est ce qu'on dit hein, dans le livre. Ça peut vite devenir fastidieux quand en plus on a différentes valeurs qui peuvent se télescoper. Alors
commerce équitable, bio.
Alors commerce équitable ou bio ou vegan. Local. En vrac ou pas en vrac, local ou machin, enfin voilà, ça peut...
Croiser avec des régimes alimentaires,
voilà.
Différents par personne dans la famille.
Ça peut vite être très compliqué, mais on parlait de l'esprit critique au début. Mmh. Déjà, je pense qu'il faut se poser en tête à tête avec soi-même et peut-être définir nos valeurs prioritaires.
Oui.
Une fois qu'on les a, eh bien, il faut chercher. Enfin, moi, je régulièrement, je pète des petites durites avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression que les gens ne cherchent plus une information, ils vont... demander à quelqu'un, n'importe qui peut donner n'importe quelle réponse. On n'a plus l'habitude de chercher nous-mêmes les informations.
Vous voulez dire sur les réseaux ou dans la vraie vie?
Sur les réseaux. Et même dans la vraie vie, je pense. Hein. Parce que, je sais pas, ou peut-être parce qu'on est habitué à ce que, par exemple, à la télé, on ait quantité d'informations, mais qui ne sont pas forcément les bonnes, malheureusement. On ne sait plus chercher. Et ben moi, je dis si, à un moment, hein, il faut passer la seconde et il faut chercher. Et après, par contre, on donne quelques astuces dans le livre pour pas passer non plus toute sa vie en investigation.
Oui, ou par exemple, quand on est en vacances.
Voilà, bon, on peut aussi se faire le kit de base qui est, par exemple, de se fier à des labels. Voilà. Après, on peut partir sur des débats sur les labels qui sont pas parfaits, qui sont ceci, cela. C'est déjà une base, quoi, les labels bio, commerce équitable.
On sait au moins ce que ça ne contient pas déjà.
Voilà, ce que ça ne contient pas. Partir sur des produits bruts aussi, c'est ce qu'on dit dans le livre. Quand on a bien du mal à décrypter une étiquette et qu'on a l'impression qu'il faut un bac plus 12 en physique-chimie pour comprendre une étiquette, le mieux c'est peut-être d'utiliser un produit qui n'a pas d'étiquette. Un produit brut, tout simplement. Un produit avec un ingrédient.
Oui, voilà. En fait, je pense que la clé aussi, c'est un petit peu la simplification. La simplification. Une fois qu'on a simplifié un petit peu son quotidien, on n'a plus tant de... En fait, on a moins de recherches à faire puisqu'on a moins d'objets à rechercher. Enfin, je veux dire, dont on doit rechercher l'origine. Donc, c'est ça. Je pense que la simplification vient avant, en fait.
Mm-hmm. C'est moins.
Ouais, parce que si on commence à chercher l'origine de tout, alors qu'on n'a pas commencé à décroître au niveau de consommation, là, c'est chronophage, c'est une énorme charge mentale, une énorme charge morale. Alors que quand on le fait, quand on a commencé à réduire, c'est, d'ailleurs, c'est ce que tu dis, en fait, il faut consommer moins avant de consommer mieux. Et moi, je suis assez d'accord là-dessus, parce que, bon, déjà, ça se fait assez vite de déconsommer, mais en plus après le pas est d'autant plus d'autant moins difficile à faire puisqu'il n'y a plus grand chose finalement, et on découvre la simplicité effectivement de fabriquer un déo soi-même avec 3 ingrédients, un produit ménager avec 3 ingrédients, et on se prend pas la tête avec l'origine, quoi.
Par exemple, au niveau alimentaire, toi, Herveline, comment tu as réussi à simplifier ? Parce que c'est vrai qu'avec des enfants, au niveau des repas, c'est pas toujours évident.
Moi, j'ai un peu une politique,
tout en conservant un équilibre, j'imagine, quand même alimentaire.
Oui.
Après, même sans, comme tu disais, c'est-à-dire que si on mange des pâtes 2-3 fois de suite, c'est pas très grave.
C'est Bon, après, moi, j'ai une politique avec les enfants. C'est vraiment ma façon de les éduquer. Déjà, on mange tous la même chose. Je vais pas faire différents repas pour différentes personnes. Donc moi, je suis végétarienne. Donc à la maison, les enfants sont végétariens. Et à l'extérieur, par contre, ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, ça c'est un exemple. Déjà, ça me permet de simplifier. Je vais pas aller acheter de la viande pour les enfants, etc., etc. Ensuite, je vais pas leur faire des trucs qu'ils détestent. Par contre, je fais des choses simples. Alors par contre, je fais des choses simples. Des légumes simples, cuisinés simplement. Je ne veux pas faire... par exemple, je sais que si je fais un gratin avec 50 000 légumes dedans, ils ne vont pas aimer. Par contre, si je leur présente un légume et un féculent, bon, bah voilà, là, c'est pas qu'ils vont aimer ou pas aimer, ils vont manger, quoi. Enfin, je simplifie ça. J'ai simplifié au niveau des desserts, par exemple. Des fois, le dessert chez nous, ça va être un carré de chocolat parce que l'important, c'est le repas qu'il y a eu avant, c'est pas le dessert sucré. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme
On a éliminé les desserts, nous, par contre, chez nous.
Voilà.
Mais c'est venu naturellement.
C'est ça.
C'est pas, on s'est dit, tiens, on va éliminer les desserts.
Pareil.
En fait, voilà. Le soir, en particulier.
Ils aiment bien finir sur un truc sucré. Du coup, des fois, ils ont un carré de chocolat, mais voilà, c'est pas non plus.
Souvent, moi, je fais à manger pour 2 jours aussi.
Faire à manger pour 2 jours.
Faire des plus gros repas congelés.
Faire des plus petites, cuisiner en plus petite quantité aussi. Cuisiner en plus petite quantité, ça me permet aussi de pas avoir de reste et de pas jeter et de pas, parce que moi, mes enfants, ou même moi d'ailleurs, j'aime pas. Manger 2 fois la même chose, oui. 3 fois, 4 fois, ça m'emmerde un petit peu.
Et puis après, c'est réchauffé plusieurs fois.
C'est réchauffé plusieurs fois, tout ça. Donc, du coup, je mets en plus petite quantité. Mais par contre, je peux faire du batch cooking.
Batch cooking, voilà. C'est très, très tendance,
cooking,
effectivement.
Et ça, c'est sympa parce que je fais en petite quantité, mais plusieurs trucs à la fois. Et ça me fait quasiment ma semaine. Et voilà, c'est bon.
C'est vrai qu'on voit que le gaspillage alimentaire a un impact énorme sur la planète. Je crois que c'est un tiers des gaz à effet de serre. En impact, enfin j'ai lu le chiffre, ça m'a paru mais vraiment monstrueux. Moi je me rends compte que je gâche encore, c'est-à-dire que je mets au frigo, je ne jette rien, mais par contre parfois ça moisit dans le frigo. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour mieux s'organiser, pour être plus au taquet là-dessus ?
Nous, dans le groupe, dès le début de notre démarche, on est beaucoup sur la question des menus en fait, c'est-à-dire faire un menu à partir de ce qu'on a déjà en stock, élaborer son menu, élaborer sa liste des courses en fonction de son menu, et n'acheter que ce qui manque.
Donc, il faut être quand même bien organisé par rapport à ça. Tout à l'heure, je parlais d'organisation, il faut quand même être assez...
Oui, il y a quand même quelques petites choses où je pense qu'il faut être...
Sauf que c'est une organisation à choper au début.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais en fait, après, ça devient... D'abord, il y a une partie qui devient naturelle. Et puis ensuite, une fois que c'est bien rodé, on peut faire des écarts, des trucs... On voit, de toute façon. Quand on a pris le truc de faire avec ce qu'il y a, même si on veut dévier de ce qu'on a prévu, ça pose pas trop de problèmes, en fait.
Ouais, vous arrivez à réajuster facilement. Vous parlez aussi beaucoup de la notion d'utilité dans votre livre qui n'est pas la même pour tous. Qu'est-ce qui est un progrès ? Qu'est-ce qui finalement ne l'est pas ? Et du coup, on a vraiment du mal à se passer.
Bonne question. Non, ce qu'on explique dans le livre, c'est que la notion de progrès, alors je ne vais pas me souvenir exactement mot pour mot, mais la définition du progrès, c'est une avancée qui apporte quelque chose de positif à une société. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que on a l'impression que le progrès est un peu devenu un animal fou qui vit sa vie tout seul et qui avance, voilà.
Qui s'est emballé.
Qui s'est emballé, ouais, ouais.
Qui... Et qui propose toute une série d'objets inutiles, finalement.
Voilà, et qui n'a plus pour but le bien-être des gens, le bien-être de tout le monde dans la société, qui a son propre but à lui-même. Donc, la question de l'utilité, c'est, bah, comme on le dit, elle est propre à chacun. C'est sûr que si on se dit il est utile uniquement d'avoir un toit et à manger, bon, on se pose pas de questions. On se pose la question d'un objet, combien de fois on va l'utiliser dans l'année, est-ce qu'il va vraiment, vraiment, vraiment nous apporter du bien-être dans notre quotidien. Le U arrive tout à la fin de la méthode Bisou, hein. Il se suffit pas à lui-même.
Ah, c'est extrêmement subjectif, le U.
Ouais, c'est complètement subjectif.
Parce que chacun a un fonctionnement différent, a des besoins différents, et donc trouve une utilité différente.
A des névroses différentes.
Aussi. Aussi. Mais tout ça, faut l'accueillir, c'est normal. C'est normal. Je pense que c'est vrai qu'il arrive tout au bout, mais c'est aussi quelque chose de, c'est le bout du cheminement, d'accepter finalement que chaque truc, chaque objet ait sa propre utilité ou pas pour nous. Mais le truc, c'est d'être, d'être lucide.
Voilà. C'est ce qu'on explique souvent, c'est que la méthode Bisou, c'est pas une méthode pour faire des économies à tout prix ou pour arrêter complètement de consommer. C'est une grille d'analyse. Donc, c'est une grille d'analyse de soi-même, en fait. C'est,
de réflexion.
De réflexion. Et le but, c'est de nous regarder, vraiment, nous, notre nombril, et notre manière de consommer. Donc, la méthode Bisou est vraiment... chacun l'utilisera d'une manière différente.
Et puis, c'est vrai que je pense que, dit comme ça, certaines paroles qu'on dit, je pense que ça peut être... interprété peut-être comme du laxisme, tu vois. Chacun voit l'utilité du truc qu'il en fasse et tout. Mais non, en fait, parce que quand on la voit dans sa globalité, nous, ce qui nous intéresse, c'est précisément l'esprit critique. Donc, tout ce qu'on a dit, se lâcher la grappe, chacun trouve son utilité, tous les besoins sont intéressants, c'est dans le contexte de l'esprit critique, pas dans le contexte de je bouffe tout ce que la société me fait ingurgiter et me fait croire que ça c'est utile, que j'ai ce besoin là et que je me lâche la grappe, donc je prends des plats préparés. C'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment l'esprit critique qui va venir mettre tout le puzzle,
faire assembler,
voilà. J'ai du mal à mettre mes mots dans le bon ordre.
C'est redévelopper son esprit critique et avoir cette conscience par rapport à cet esprit critique de qu'est-ce que je veux vraiment, quoi.
Oui.
Qu'est-ce qui me nourrit profondément de l'intérieur et qu'est-ce qui est vraiment plutôt un plaisir immédiat et qui nourrit une forme d'addiction ou de névrose mais qui ne me satisfait pas au bout du compte.
C'est ça,
exactement ça.
C'est système. Moi, je suis allée en vacances à Cuba il y a quelques temps. C'est il y a quasiment pas d'accès internet, on ne peut rien acheter, il y a rien, hein. c'est une dictature communiste, hein, donc on ne peut pas, il n'y a aucune entreprise, donc les gens dansent, chantent, et en même temps il y a zéro tentation. C'est-à-dire que quand vous êtes là-bas, personne ne peut acheter ni une glace, ni une barre chocolatée, ni boire un soda. Alors moi ça me va plutôt bien parce que je consomme pas forcément ce genre de produit, mais ça pose cette question de la tentation. Alors, je dis pas qu'il faut revenir à un régime communiste.
Non.
Mais c'est vrai qu'on voit que on est extrêmement tenté quand on est revenu à l'aéroport de Roissy, qu'on a vu tous ces magasins, mais quel choc. On ne s'en rend plus compte.
Oui, mais on est tellement tellement tenté, on est tellement abreuvé de publicité partout, que ce soit visuel, des panneaux à la télé, sur les réseaux sociaux, partout les newsletters, tout. On est tellement accablé, j'ai même envie de dire, accablé, enseveli sous toute cette publicité, que la seule manière de survivre, c'est de nous armer de l'intérieur. C'est de nous défendre, en fait. C'est de nous que notre cerveau se défende de toutes ces agressions.
Et c'est un peu le but.
Voilà, se désintoxique et se renforce, en fait. C'est
alors, si on parle
but.
De s'armer et de combat, on est déjà dans une posture de contre. Est-ce qu'on pourrait y arriver par voie plus pacifique?
Oui.
Enfin, à l'intérieur de soi.
Enfin, je reprends juste tes deux mots, là. J'ai entendu combat et armes.
C'est vrai.
Tout à fait, parce qu'en fait, en plus, nous, on est plus dans le fait de dire que, au lieu de lutter contre, il faut aller pour. Voilà, aller de l'avant. Et c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle, cette désintoxication-là, elle a été progressive. Et elle est très, très bien entamée. Moi, la tentation, j'en ai vraiment pas énormément en ce moment. Mais, alors, ça peut paraître fade, ça peut paraître oh là 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 là. Sauf que, je reviens sur ce que tu disais à Cuba, ils chantent, ils dansent. Ben, nous, tous les jours à la maison, avec les enfants, on chante et on danse. Et en fait, oui. Alors, effectivement, donc, alors, on a une tablette. Enfin bon, voilà, on a une tablette. Les enfants n'ont pas le droit du tout d'y toucher la semaine. Sauf pour mettre de la musique, pour danser, pour chanter. Et on le fait quasiment tous les jours. Et c'est un moment de plaisir, je veux dire. Et alors que bon, voilà, je finis à 5h30, je vais les chercher, il faut faire à manger, ils mangent à 7h, 7h30, nanana, les dents. Ensuite, il faut qu'ils se couchent. On trouve quand même le moyen, et je mets les devoirs et tout, machin, machin. Ouais, et on trouve toujours un moment pour chanter, danser, le matin, le soir.
C'est presque une mode d'être débordé, hein, c'est ce qu'on dit un peu dans le livre. C'est presque, enfin voilà, si on n'est pas débordé, c'est qu'on n'a pas plein de choses dans notre vie, c'est qu'on n'est pas intéressant. C'est un peu l'éloge de la rapidité et de celui qui est le plus booké. Voilà,
rappelle-toi, à une époque où tu étais débordé, tu te sentais prise dedans, tu pouvais pas, tu disais... Je suis débordée. On t'aurait dit, c'est une mode d'être débordée. Tu aurais dit, est-ce que tu veux mon poing dans ta gueule?
Ouais, je sais pas. Je sais pas, tu vois.
Tu sais pas? Moi, je sais pas. Moi, j'aurais dit oui.
Il y a aussi, du coup, l'image de, tu vois, la...
Je suis hyper occupée.
La wonder femme, quoi. Voilà, je gère les enfants, je gère mon travail, je gère ma maison, tu vois. Il y a aussi une espèce de satisfaction derrière le fait d'être débordée, peut-être.
Je sais. Mais c'est pas facile de s'en rendre compte, ça, je pense.
Non.
Bah, quand on est dans la cage et qu'on pédale fort.
C'est ça. Et qu'on pense qu'on n'a pas le choix, en plus. Et qu'on pense à juste titre. Enfin, je veux dire, quand on est dedans, quoi. C'est pour ça que je dis, il faut se poser, il faut s'arrêter, il faut se dire, oh là là.
Et puis, on en discutait dans un autre podcast avec Maud Ankawa, il y a l'excitation parfois dans le pédalage dans la cage. On voit, ce n'est pas qu'une galère, on y trouve une forme, on y trouve un plaisir immédiat qui parfois est, qui n'est pas forcément nourrissant au niveau du cœur, du corps, etc., mais qui nourrit cette fameuse excitation.
Mais oui, de toute façon, dans n'importe quel contexte, l'humain, il trouve toujours une satisfaction dans ce qu'il fait, même si c'est une satisfaction morbide. Dans les relations toxiques, on est à plein de noms. Enfin, je veux dire, on resterait pas dans une relation toxique s'il y avait pas une part de satisfaction morbide et inconsciente. Bon, là, moi, c'est, je veux dire, je comprends, hein, que ça puisse choquer quand je dis ça, mais c'est ça, le lien morbide qui existe dans une relation toxique. Finalement, c'est le même lien morbide qu'on a avec notre système de consommation à l'heure actuelle. On n'arrive pas à s'en défaire. On pense que l'économie de marché, si elle s'effondre, c'est le chaos, il n'y a plus rien, ça provoque des angoisses énormes, etc. Alors que c'est une relation toxique. D'ailleurs, qui est en train de nous détruire, mais on n'arrive pas à couper ce lien morbide. Donc voilà, c'est ça, c'est l'être humain. Hein.
On arrive à la fin de ce podcast pour donner aussi une note d'espoir. Vous avez monté une grande communauté qui s'appelle la communauté des licornes. Où est-ce que ça en est, en fait, aujourd'hui?
Oh, bien, le petit groupe a maintenant 4 ans et demi, c'est ça? Et il compte plus de 160 000 membres, hein, notre groupe gestion budgétaire, entraide et minimalisme sur Facebook, voilà, qu'on a monté toutes les deux au début.
Oui.
Et qui est géré maintenant par une douzaine de personnes bénévoles au quotidien.
Voilà, sans oublier les groupes locaux, là, 90 groupes locaux gérés par les 200 et quelques admins bénévoles.
Une alors voilà, si quelqu'un veut rejoindre la communauté, comment faire? Alors simplement demander... À rentrer dans le groupe?
À rentrer dans le groupe sur Facebook, gestion budgétaire, entraide et minimalisme.
Génial. Quelle espérance avez-vous toutes les deux pour la suite, l'une et l'autre?
Pour nous ou pour le monde?
Ça va de pair, je crois.
Ouais.
Je sais pas, moi, j'évite...
Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui comme espérance, comme espoir?
Moi, je sais pas. Moi, j'évite de me projeter dans des espoirs parce que je pense qu'il faut avancer. De toute façon, et avancer dans la joie.
C'est une forme d'espérance.
Oui, alors je sais pas quoi te dire en fait là-dessus. Moi, je me dis, j'ai envie d'avoir une vie la plus heureuse possible dans ce contexte-là, et de faire tout pour que ce soit aligné avec mes propres valeurs, y compris pour transmettre les choses à mes enfants, les choses que je trouve importantes à transmettre à mes enfants. Mmh. Mais j'évite de me projeter parce que sinon je tombe un petit peu dans les anxiétés.
Oui, ça on l'a compris tout à l'heure.
Non, moi c'est pareil en fait. Je me projette pas, mais parce que je sais pas en fait, parce que j'ai l'impression que tout ça est un gros pari, même l'éco-anxiété, tout ça, on sait pas trop comment ça va se passer, quand, comment, etc. Donc,
puis si on n'est pas ancré dans le présent, ouais, comment on va changer les choses en fait?
Donc on est, voilà, moi mon but c'est de m'ancrer dans le présent, de continuer comme ça, enfin voilà, ma vie est bien transformée, je m'aligne de plus en plus, et bien je veux juste continuer comme ça.
Parfait. Eh ben merci pour cette conclusion. Merci Marie Dubon et Herveline Giraudot. Je rappelle le titre de votre premier livre chez Erol qui s'appelait « J'arrête de surconsommer » préfacé par Cyril Dion et celui qui vient de sortir « L'abus de consommation responsable rend heureux », la méthode Bisou, la première méthode efficace pour se libérer de la surconsommation. Et puis on peut vous retrouver sur vos blogs, c'est ça Marie, la salade à tout toujours?
Oui.
Et puis Herveline, toujours sortez de vos connables, c'est
oui,
ça?
Oui, toujours. Okay.
Merci infiniment à toutes les deux.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.
Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience.